BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Midi sur BFM Business, bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. L'heure H aujourd'hui encore à l'heure de Davos avec Edwige Chevrillon sur place et tous ses invités. Encore un très beau programme pour vous aujourd'hui. Dans un instant, nous serons avec Bernard Chalès, le directeur général de Dassault Systèmes. Puis à midi 15, Benoît Queuré, l'ancien membre du directoire de la BCE, aujourd'hui chef du nouveau pôle innovation de la BRI. Et puis à 12h30, deuxième partie de l'heure H dédiée au climat. Vous le savez, sujet numéro 1 cette année à Davos. Avec le patron de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, et la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson. Et puis à 12h50, on terminera cette RH 100% Davos avec Philippe Donnet, le patron de Generali. Voilà donc le programme de l'RH, mais tout de suite, c'est le journal.
BFM Business, le journal. Thomas Asportas.
Et cette grosse annonce qui vient de tomber à Davos, et c'est peut-être le commerce international des prochaines années qui est en train de se dessiner, avec d'abord cette annonce de Bruno Le Maire. La France et les États-Unis ont trouvé un accord sur la taxe GAFA. Nous avons un accord sur la base de travail à l'OCDE sur la taxation du numérique, vient donc de déclarer le ministre de l'Économie. Les négociations vont reprendre à l'OCDE dès la semaine prochaine. Et Bruno Le Maire répète que la France prélèvera bien une taxe sur ses entreprises en 2020. Ce sera soit la taxe OCDE, soit en cas d'échec de ces discussions, la taxe GAFA française, dont le PME en avril est reporté et serait donc prélevé au mois de décembre. Les États-Unis qui sont à la manœuvre par ailleurs sur tous les fronts, puisqu'ils déclarent aussi ce matin vouloir un accord commercial avec le Royaume-Uni dès cette année, dans la foulée du Brexit. C'est une priorité absolue pour Donald Trump, d'après les derniers propos de Steven Mnuchin. Et puis pour finir, le président américain a fait comprendre à Davos qu'il voulait aussi un accord commercial avec l'Union européenne, idéalement avant les prochaines élections américaines en novembre, faute de quoi il taxerait l'automobile européenne. L'ambassadeur de Bruxelles déclare qu'Ursula von der Leyen pourrait se rendre à Washington début février. Bruno Le Maire déclarait ce matin sur BFM Business qu'il n'y avait pas, pour l'instant, de projet d'accord sur la table entre les Européens et les Américains. BFM Business, il est midi 3. À vous Edwige Chevrillon à Davos avec votre invité Bernard Chalès.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Bernard Chalès, directeur général de Dassault Systèmes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Une réaction peut-être à chaud. On a appris il y a quelques instants qu'il y avait un accord global qui avait été trouvé dans le cadre de l'OCDE entre les Américains et les Français sur la taxe numérique. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Ça évite la guerre commerciale ou pas? Réaction à chaud?
Réaction à chaud, je veux dire que c'est une reconnaissance politique que le sujet existe et qu'il y avait un vrai sujet. Mais c'est quand même un pansement sur une jambe de bois. Parce que je pense qu'il faut éviter ça pour le futur des données de santé et bien d'autres données stratégiques pour à l'avenir. Donc je pense que c'est une bonne leçon pour faire mieux la prochaine fois.
Bernard Chalès, chaque fois je vous demande de participer à l'RH ici à Davos parce que vous venez pour trouver les grandes tendances qui vont faire l'année 2020 et peut-être l'année 2021. Qu'est-ce qui émerge pour vous, patron d'Assaut Système, des plus belles réussites françaises?
Deux grands thèmes cette année, mais qui sont la prolongation de ce qui avait été évoqué auparavant. Le premier, c'est évidemment l'innovation durable, c'est-à-dire la problématique d'améliorer produits et services dans le cadre d'un environnement plus vert, en réalité. Premier thème. Deuxième thème, quand même, que j'observe désormais, c'est la santé. C'est-à-dire l'évolution des systèmes de santé et l'impact du numérique pour améliorer la performance auprès du patient. Auprès du citoyen, et les problématiques que ça pose pour créer des nouveaux écosystèmes. On parle beaucoup d'IA, mais ça reste un outil. Je pense que ces deux grandes tendances vont marquer les années futures.
Oui, normalement, tout ce qui est dans protection des données, c'est un point très important. Notamment, protection des données pour la santé, on en est au tout début. Mais on voit que toutes les questions, elles sont là.
Le problème des protections des données se pose pour toutes les industries. Oui. Par exemple, la mobilité. C'est aussi le cas, si vous voulez optimiser une ville, il faut bien partager des données entre opérateurs. Si vous ne les partagez pas, vous ne pouvez pas optimiser le transport public. C'est un exemple concret. La santé, ça va être la même chose. Donc c'est un sujet à l'ordre du jour. Je crois clairement que le président Macron a pris position déjà là-dessus lors de l'événement de Versailles de lundi. Je crois que la Commission européenne se rend compte que c'est un vrai sujet. On avait un meeting sur la gouvernance Health en Europe, santé en Europe. Le ministre allemand de la Santé a aussi pris une position très claire sur ce sujet. Je pense que ce sont des beaux sujets à traiter plutôt avant qu'après. La logique de taxe, malheureusement, malheureusement, c'est quand le problème est déjà créé. Il faut le prévoir auparavant.
Oui. Est-ce que le monde, est-ce que vous avez l'impression, on a dit qu'ici, il y avait une sorte de point de bascule, on en parlera avec Jean-Pascal Tricouard de Schneider, sur l'urgence climatique. Est-ce que sur le plan du digital, il y a eu un point de bascule? Est-ce que là, on est vraiment en train d'être dans le 21e siècle? Vous me direz, il est temps, on est en 2020.
Pas réellement encore. On parle de digital et on parle des autres industries. En fait, tout ça, c'est en train de fusionner. Et on voit bien que les produits et services de demain, c'est la fusion entre ce qu'on appelle du matériel, la chose, et puis la logique intelligente autour des services. Donc, mais on progresse. Je crois qu'on n'est pas encore en plein milieu du 21e siècle de ce point de vue.
Dassault Systèmes, vous êtes toujours à la pointe, donc le logiciel sur les avions, après vous êtes passé sur les voitures, après vous êtes passé sur le textile. Là, on voit bien que tout ce qui est la santé est devenu votre priorité. Vous avez procédé à plusieurs acquisitions, certaines majeures. Pour vous, c'est l'avenir, elle s'écrit dans la santé pour Dassault Systèmes?
Dassault Systèmes a l'intention de poursuivre sa croissance. On double à peu près tous les 5 ans. Et pour ça, il faut se diversifier. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'aujourd'hui, le jumeau numérique de l'être humain devient envisageable. Et ce que l'on a fait comme jumeau numérique pour le véhicule, pour l'avion, on doit pouvoir le faire pour l'être humain. Et ça change tout. Ça change la pratique médicale, la pratique de la chirurgie, la recherche dans le domaine de l'oncologie et de bien d'autres difficultés aujourd'hui à progresser. Donc c'est l'enjeu et c'est l'engagement qu'a pris Dassault Systèmes. Mais je suis ravi que vous notiez aussi que dans le domaine du luxe, nous avons désormais une plateforme formidable qui s'appelle Centric, qui est une acquisition importante que nous avons fait en Californie et qui devient vraiment la plateforme mondiale de référence. Et c'est quand même bien que ce soit une société française et européenne qui ait ce leadership.
Ce jumeau numérique humain, on l'aura quand? Ça fait un petit peu peur, on a l'impression de se retrouver là dans un truc de science-fiction.
Bon, d'abord, c'est fait essentiellement pour la recherche, oui, et le développement. Mais c'est fait aussi pour que le patient et le citoyen comprennent ce qu'on va lui faire dans une opération chirurgicale. Mmh. Mais ça existe aujourd'hui. On le fait particulièrement en orthopédie. C'est très important d'avoir quelque chose et des prothèses qui soient exactement ce dont vous avez besoin. Donc, on voit bien l'importance de maîtriser en virtuel avant d'agir sur le corps humain.
Oui. Juste un dernier mot sur les villes. Vous travaillez beaucoup sur les villes digitales. Est-ce qu'on peut réconcilier le numérique et le climat? Est-ce que l'un va aller avec l'autre pour aller encore plus vite?
Tout à fait. En réalité, le problématique des villes, c'est que c'est un système très compliqué, où il y a des flux énergie, des flux déchets, des flux personnes, commerce, etc. Et appréhender le fonctionnement d'une ville, c'est pouvoir estimer comment on l'améliore. Et si vous ne pouvez pas la comprendre dans son fonctionnement, vous ne pouvez pas l'améliorer.
Confiant pour 2020?
Confiant pour 2020 et nous annoncerons nos résultats début février. Donc oui, on donnera une meilleure visibilité là-dessus pour 2020.
Et tout va bien. Merci beaucoup toujours d'avoir ces tendances qui sortent, qui émergent un petit peu de Davos, même si on sent que là c'est un peu compliqué. Merci Bernard Charles d'avoir été avec nous dans un instant.
Plaisir.
C'est justement Benoît Corré, l'ancien membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui sera notre invité.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Il a été un des hommes clés de la Banque Centrale Européenne. Maintenant, il est à la BRI. Il est en charge des crypto-monnaies, un enjeu très important pour l'ensemble de l'économie mondiale. Benoît Corré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et de répondre à nos questions. Vous avez été membre du directoire, bien sûr, de la BCE. Et puis aujourd'hui, vous êtes chef du nouveau pôle innovation à la Banque des règlements internationaux. La crypto-monnaie, c'est un enjeu très important. Et alors, c'est un peu compliqué parce que ici, il y a ceux qui peuvent l'utiliser en tant que spéculation. Et en même temps, on voit bien, même Christine Lagarde s'est exprimée sur le sujet en disant il faudrait même qu'il y ait une crypto-monnaie pour les banques centrales. Et puis aussi, ça doit devenir un moyen de paiement. En tous les cas, je ne vais pas m'y opposer. Quels sont les enjeux pour vous, Benoît Corré?
Alors, d'abord, l'innovation à la Banque des règlements internationaux, ça n'est pas seulement les crypto-monnaies, parce qu'on voit une révolution dans tous les domaines de la finance et dans tous les domaines qui touchent les particuliers. Et c'est aussi les paiements, et c'est aussi l'intelligence artificielle, le machine learning appliqué à la supervision bancaire. Enfin, c'est toutes sortes de choses. Les monnaies numériques, ça en fait partie, c'est très important. Et effectivement, on voit un certain nombre d'innovations qui sont nées dans le secteur privé, parfois de manière disruptive et même provocative. Bitcoin est un projet disruptif, qui maintenant sont en train d'être appropriés par le secteur public. Et pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que si on laisse proliférer des monnaies émises par des émetteurs privés de manière non contrôlée, on risque d'affecter ce qui est au cœur de la stabilité du secteur financier, qui est la confiance dans la monnaie. Et donc ce qui est au cœur du système, ça doit rester le domaine des banques centrales, ça doit rester de la monnaie émise par des banques centrales. Tout le reste doit être géré par le secteur privé, avec de l'innovation, avec des expériences, etc. Mais le cœur du système, c'est la monnaie émise par les banques centrales.
Oui, mais par exemple, si on prend alors Libra et la monnaie de Facebook, même si on voit que c'est loin d'être abouti, est-ce que où est-ce que vous faites le lien? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi le? Vous nous dites que ça doit être le cœur doit rester au sein des banques centrales. Mais le cœur de Libra, où est-ce qu'il sera? Il sera plutôt du côté de Facebook, non? Enfin,
Oui, alors Libra, c'est un projet évidemment très particulier parce que c'est émis par une très grande entreprise, un très grand réseau social. La communauté des régulateurs a eu des discussions très intenses avec Facebook depuis l'an dernier, qui continue. Et c'est un projet qui est évolutif. Donc c'est pas à moi de dire où Libra va aller, Facebook de le dire. Mais ce qui est important pour nous, c'est de voir que des projets comme Libra ne sont pas seulement des projets de monnaie, c'est aussi des projets d'amélioration des systèmes de paiement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de repérer ce qui est utile en termes d'amélioration des paiements pour rendre les paiements entre particuliers moins chers et plus rapides, ce qui est très important. Très important aussi pour l'inclusion financière dans les pays en développement, par exemple, pas seulement en Europe. Donc, voir ce qui est bien, retenir ce qui est bien, mais en même temps, identifier ce qui peut être dangereux pour la stabilité du système.
Vous venez d'être nommé, merci, du reste, c'est votre première interview sur cette question-là. C'est quoi votre échéance? Je veux dire, comment vous allez travailler? C'est quoi le cadre de travail qu'on vous a fixé? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a l'impression que vous avez une feuille vierge devant vous.
Non, alors il y a beaucoup d'initiatives sur les monnaies numériques. Il y a d'abord un travail réglementaire sur la régulation des monnaies numériques et en particulier la régulation de ce qu'on appelle les stablecoins. Ouais. D'ailleurs, la question étant de savoir s'ils sont vraiment stables, ça fait partie de la question. Donc c'est stablecoins, point d'interrogation. Et ça, c'est fait par le Conseil de stabilité financière, qui est hébergé par la BRI à Bâle, mais qui regroupe tous les grands régulateurs mondiaux. Donc il y a un groupe de travail là-dessus qui va rendre des conclusions au mois d'avril sur la régulation. Ensuite, il y a des projets développés par les banques centrales elles-mêmes. Et la Banque des règlements internationaux a donc créé ce laboratoire d'innovation, ce centre d'innovation, qui va travailler plus particulièrement avec les banques centrales de Singapour, de Hong Kong et de Suisse. Donc à Singapour, à Hong Kong et à Zurich et à Bâle. Et avec d'autres partenariats à l'avenir, qui va développer ses propres projets. Donc ça, c'est très original aussi, c'est-à-dire qu'on va développer nos propres projets pour voir ce qui marche, ce qui marche pas, et ce qui peut être intéressant pour la communauté des banques centrales. Et troisième dimension, on va travailler avec toutes les banques centrales qui ne font pas partie de la BRI, notamment dans les pays en développement, avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale, avec des fondations privées, pour ne pas manquer cette dimension d'inclusion financière dans le monde en développement qui est extrêmement importante.
Et vous êtes... Et d'abord, est-ce qu'il faudrait une monnaie, une crypto-monnaie au niveau européen, de la Banque centrale européenne, ou peut-être au niveau français, au niveau allemand? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Alors, moi je ne veux pas me prononcer là-dessus. Oui. C'est à Christine Lagarde de dire si elle veut faire une crypto-monnaie, une monnaie numérique. Je préfère parler de monnaie numérique que de crypto-monnaie, d'ailleurs. Parce que les crypto-monnaies développées qu'on a vues proliférer dans le secteur privé, qui sont souvent plus des crypto-actifs que des crypto-monnaies, posent des tas de problèmes. Nous, on parle de monnaie numérique. La monnaie numérique, c'est une décision qui, à la fin, est politique. Parce que c'est la forme de la monnaie qui est utilisée par les citoyens. C'est une monnaie qui doit avoir un cours légal. Et donc, c'est un débat qu'à la fin, on va rendre aux politiques. Ça doit aller dans les instances politiques. Ouais. Ce qu'on va faire, nous, à la BRI, c'est préparer ce débat avec un certain nombre de banques centrales. Et donc, un groupe de travail a été créé avec la BCE, mais aussi avec la Banque d'Angleterre, avec les Suisses, avec les Suédois, avec les Canadiens et avec les Japonais. Et peut-être avec d'autres, à l'avenir. Pour identifier les principaux choix en matière de monnaie numérique, vraiment clarifier le débat, voir quels sont les choix. Et après, c'est à chaque pays de faire ses choix. Donc, il n'y a pas de raison que les choix soient les mêmes dans la zone euro, au Japon ou au Canada. Mais simplement, comme on va dans cette direction, il faut être sûr que si on le fait, on le fait d'une manière qui est cohérente et on le fait d'une manière qui permet au système financier international de bien fonctionner.
Oui. Ça pourrait, vous avez fixé les différentes étapes, ça pourrait voir le jour quand, cette monnaie numérique de banque centrale ?
Les différentes banques centrales sont avancent à des rythmes différents. Donc il y a des banques centrales qui sont de notoriété publique, enfin elles le disent elles-mêmes, très avancées. Les Chinois par exemple, la banque du peuple de Chine, très très avancée sur le sujet. La banque centrale de Suède, la Riksbank a aussi beaucoup travaillé là-dessus. La banque du Canada a beaucoup travaillé. La BCE. Où j'étais jusqu'en décembre.
Jusqu'il y a très peu de temps,
accélère ses travaux sur la monnaie numérique. Mais comme je le disais tout à l'heure, à la fin, c'est une décision,
décision politique,
c'est une décision souveraine, car on parle ici d'instruments de souveraineté, et on parle d'une monnaie qui doit avoir une base juridique et politique.
Oui, bien sûr, mais c'est juste quand est-ce qu'on peut appuyer sur le bouton? Parce qu'il y a urgence, parce que dès qu'on est dans le numérique, je veux dire, le temps, il est extrêmement raccourci.
Alors, je vais peut-être vous choquer. Non, je ne crois pas qu'il y ait urgence.
D'accord. C'est important. Il n'y a pas urgence.
Je ne crois pas qu'il y ait urgence parce qu'il faut bien mesurer les conséquences des choix qui vont être faits. Le débat sur la monnaie numérique de banque centrale, ça n'est pas un débat technologique.
Oui.
Savoir si c'est sur un registre distribué, un blockchain ou pas sur un registre distribué, ce n'est pas la question la plus importante. La question la plus importante, c'est quels sont les principes. Et là encore, il y a un principe clair qui doit être le centre du système financier, c'est de la monnaie de banque centrale. Et quels sont les grands choix d'organisation? Et il faut prendre le temps nécessaire pour trancher ces débats. Et un des motifs de la demande pour la monnaie numérique dans certains pays comme la Suède ou comme la Chine, c'est le fait que les consommateurs n'utilisent plus de pièces et de billets. Dans la zone euro, c'est pas le cas. On voit pas ça dans la zone euro.
Mais en même temps, on voit bien que ça évolue très vite.
Ça peut évoluer très vite, mais je crois que le degré d'urgence n'est pas le même dans les différents pays.
Et ici, à Davos, vous rencontrez quel est le sentiment? Est-ce qu'on vous interpelle beaucoup sur cette question? Parce que c'est un des sujets au cœur, justement, de ce forum de Davos.
Oui.
La crypto-monnaie, malgré tout, la monnaie numérique, comme vous voulez.
Alors, le grand sujet de Davos cette semaine, c'est le climat.
Hein. Oui, c'est clair.
C'est comment on va mobiliser le secteur financier pour financer le climat. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Est-ce que je peux faire une parenthèse sur le climat? Parce que c'est un sujet
rapidement,
important
rapidement,
pour nous.
Rapidement,
Moi, ce que je retire de ces discussions ici à Davos, c'est que il faut arrêter de parler de finances vertes.
Oui.
La question, c'est comment on mobilise l'ensemble du secteur financier pour la transition climatique. C'est pas une question de niche.
Et pendant que vous parlez, il n'y a pas le patron d'AXA qui passe juste derrière nous.
Voilà.
Donc peut-être qu'il vous a entendu.
Donc arrêtons de parler de finances vertes et mobilisons l'ensemble du secteur financier pour la transition climatique. C'est ce que je retiens de ce Davos. Et il y a effectivement ce sujet l'innovation digitale dans le secteur financier et en particulier des monnaies numériques qui est en train de monter très rapidement.
Ouais, une question quand même, donc aujourd'hui c'est là évidemment la réunion de politique monétaire. Vous êtes là, ça doit vous faire peut-être un drôle d'effet, mais vous êtes à Davos, tout à l'heure arrive la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Je ne vais pas vous interroger évidemment là-dessus. En revanche, sur la revue stratégique, elle a annoncé qu'elle allait la revoir. Elle avait combien de temps? Ça fait 20 ans qu'elle a été...
c'est depuis 2003.
Oui, depuis 2003, donc j'essaie de faire le calcul depuis 2003.
Ça fait 17 ans,
voilà. Pardon. Est-ce que ça veut dire que les objectifs vont changer? Quelle est l'importance de revoir la revue stratégique pour la Banque Centrale Européenne? Voilà.
Alors,
juste l'importance.
Oui, je ne veux pas du tout vous parler de la BCE parce que je n'y suis plus. Et
vous n'avez pas le droit d'en parler.
Mes collègues sont en train d'en discuter à l'heure où on se parle.
Non, mais c'est l'enjeu toujours. Mais, c'est ça qu'on essaie de mesurer.
Mais ce qu'on observe, c'est qu'un certain nombre de très grandes banques centrales, la BCE, mais aussi la Réserve fédérale américaine, qui a commencé ce processus l'an dernier, sont en train de remettre à plat leur stratégie, et non seulement leur stratégie, mais aussi la manière dont elles communiquent avec le grand public et la manière dont elles expliquent ce qu'elles font. C'est un examen de santé, c'est normal, régulièrement de remettre à plat ce qu'on fait et de vérifier que ça marche et de vérifier que on s'est adapté à l'évolution du système financier, des technologies, des enjeux nouveaux comme ceux dont on vient de parler. Le digital, le changement climatique, et de voir ce que la politique monétaire a à faire ou n'a pas à faire avec ces enjeux. Donc c'est très sain, c'est très sain.
Et est-ce que pour les marchés, changer d'objectif, ça veut dire est-ce que c'est un choc? Oui, est-ce que c'est ou pas?
Ne m'attirez pas dans une discussion sur la BCE parce que je ne vais pas vous répondre.
Non, on parle dans l'abstrait. Parlons qu'il y a américain. Voilà, comme ça vous êtes loin de vos bases.
Vous savez, je crois que, enfin, c'était une de mes conclusions en partant de la BCE. Je crois pas qu'on doit faire la politique monétaire pour les marchés financiers. On fait la politique monétaire pour les citoyens européens, pas pour les marchés financiers.
Merci beaucoup, Benoît Cœuré.
Et merci à vous, Edwige. On marque une très courte pause et on se retrouve dans un instant avec vos prochains invités. Deuxième partie de l'Eurache, encore un beau programme. Jean-Pascal Tricoire, patron de Schneider Electric, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson. Et puis Philippe Donnet, le patron de Generali. Voilà le programme, restez bien avec nous. À tout de suite.
BFM Business. L'Eurache. L'invité d'Edwige Chevrillon.
Notre invité maintenant, c'est Jean-Pascal Tricoire, le patron de Schneider, le président, directeur général. Merci d'être avec nous, Jean-Pascal
bonjour.
Tricoire, bonjour. Vous m'avez dit hier, lorsqu'on se rencontre ici à Davos, on est arrivé sur le plan climatique de la prise de conscience, on est arrivé à un tipping point, à un point crucial, on a envie de dire.
Un point de basculement.
Oui, un point alors de basculement, vous irez jusque-là, sur le plan climatique.
Alors pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'il y a une prise de conscience globale de la société que le problème est sans doute le problème le plus grave de notre génération, et s'exprime particulièrement par la jeunesse. Deuxièmement, parce qu'il y a un engagement massif des sociétés et de leurs investisseurs dans ce domaine. Moi, je vais prendre un exemple, Climate Week à New York, c'est-à-dire il y a 6 mois, il y avait 90 entreprises qui avaient signé pour aller sur une trajectoire 1,5 degré. Aujourd'hui, il y en a le double, on est à peine 6 mois après. Il y a la lettre de BlackRock à ses sociétés affiliées qui va. Et en même temps, on a maintenant des technologies qui existent et qui permettent de résoudre le problème, mais en repensant les choses de façon différente.
Mais ça se traduit comment ? Chez Schneider, vous voyez ce que je veux dire, toutes les maisons, partout, on est tous équipés de matériel Schneider. Comment ça se traduit ?
Ça se traduit par une chose très simple, c'est que Schneider, en 15 ans, a triplé de taille.
Oui.
Et en se positionnant sur une spécialité, qui sont les solutions digitales pour le développement durable et l'efficacité. Et donc, c'est une preuve, quelque part, de l'engouement et de la nécessité de ces solutions qui sont basées sur le digital. Donc, ce qu'on invente, nous, chez Schneider, c'est un monde qui sera beaucoup plus efficace, basé sur l'utilisation des technologies digitales, l'Internet des objets, le big data, les analytiques, premier point. Un monde qui sera infiniment plus électrique parce que l'électricité est la seule forme d'énergie qui permette de décarboniser, particulièrement à base de renouvelables. Et donc aujourd'hui, ce qu'on réalise assez peu, c'est que simplement 20% de l'énergie mondiale est consommée sous forme d'électricité. Et dans les 20 prochaines années, on va passer à 40%, ce qui est considérable. Ça veut dire qu'on va investir dans l'électricité autant que depuis l'invention de l'électricité. C'est-à-dire il y a plus d'un siècle. Et puis, dernier point, qu'il faut faire en même temps qu'on électrifie plus, il faut décarboniser l'électricité et la génération d'énergie. Aujourd'hui, il y a simplement 6% de l'électricité mondiale qui est produite à partir de renouvelables. Dans 20 ans, ça sera sans doute aux alentours de 40%.
Oui, en même temps, l'énergie la plus décarbonée, c'est l'énergie nucléaire.
L'énergie renouvelable, énergie nucléaire, énergie hydro qui elle-même est renouvelable. Toutes les sources d'électricité décarbonée permettent de passer de la situation actuelle, qui est une trajectoire malheureusement à 3 ou 4 degrés aujourd'hui, on est absolument sur la mauvaise trajectoire, à une trajectoire à 1,5 degré. Et c'est la première fois véritablement qu'on a les coûts et les capacités de résoudre le problème climatique en amenant de l'énergie à tous sur la planète, grâce à l'utilisation, à cette combinaison du digital et de l'électricité. Et c'est ce que fait Schneider. Nous, on amène des solutions digitales de gestion d'énergie et d'automation pour avoir plus d'efficacité.
Et quand vous dites qu'il y a ce point de basculement, c'est quelque chose, vous êtes très présent en Chine, vous habitez toujours la Chine ?
Bah absolument, oui.
C'est intéressant parce que est-ce qu'en Chine aussi il y a une prise de conscience de cette urgence climatique ?
Non mais ça fait longtemps, le problème
on est toujours un peu sceptique par rapport à la Chine.
La Chine est le pays qui a les plus grandes villes du monde, parce que c'est le pays qui est le plus peuplé du monde avec l'Inde, et donc le problème de cette densité urbaine et de cette urbanisation forcée, c'est qu'il faut trouver des formules d'urbanisation qui soient beaucoup plus basse consommation en énergie. Donc la Chine s'est positionnée à la pointe des renouvelables, du véhicule électrique et de l'efficacité énergétique. Nous, effectivement, la Chine, l'Asie est devenue notre première région.
Oui.
La Chine est devenue notre deuxième pays après les États-Unis, avec des croissances qui ont été extrêmement fortes dans les dernières années. Et il disiez, oui, j'habite à Hong Kong, tout simplement pour mener et accélérer ce développement qu'on a en Asie, qui n'est pas simplement en Chine. La Chine est notre deuxième pays, mais l'Inde, lorsque nous aurons terminé l'acquisition d'Arsène Toubro, deviendra notre troisième pays au niveau mondial. Nous emploierons dans les deux pays plus de 20 000 personnes.
Juste un point sur la Chine. Vous avez vu, j'imagine, la problématique autour de ce virus, donc avec des mesures qui sont prises par les autorités chinoises. Il y a toujours une espèce d'un peu d'omerta, comme on l'a vu pour le SRAS. Est-ce que vous redoutez ça? Vous avez des informations pour nous ou pas du tout?
Je ne suis pas docteur.
Ce
que je note, c'est que par rapport à ce que vous avez parlé, qui s'est passé en 2003, c'est qu'il y a une détection très rapide et une ouverture sur ce qui se passe complète.
Est-ce que ici, un autre sujet à Davos, c'est la guerre commerciale avec les déclarations tonitruantes de Donald Trump. Le problème de la taxe GAFA, ça aussi, vous allez me dire, la taxe numérique, évidemment, c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément concerné, même si vous êtes dans le digital. Est-ce que vous, ça vous inquiète? Parce que la guerre commerciale, elle existait entre les États-Unis et la Chine. Elle existe encore un peu, mais il y a un accord qui a été signé maintenant entre l'Union européenne et les Américains. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça a des conséquences pour vous, pour le business, quoi?
D'abord, une guerre commerciale, c'est jamais bon pour l'économie, c'est jamais bon pour l'emploi, parce que ça diffère des investissements par manque de visibilité. Ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se diriger vers un accord. Le Brexit, on aime ou on n'aime pas la décision, mais au moins, on a de la visibilité. Donc tout ça va plutôt dans la bonne direction. Maintenant, Schneider a depuis toujours, on a considéré qu'à la fois, on est une société une des sociétés plus globales au niveau mondial, mais la société la plus locale. C'est-à-dire qu'on a, de façon consciente, pour des raisons de temps de service à nos clients, pour des raisons d'adaptation aux standards du marché, pour des raisons d'empreinte carbone de notre chaîne de logistique, on a décidé d'être extrêmement local. Donc on produit, on développe en Europe pour l'Europe, on fait la même chose aux États-Unis, on produit, on développe aux États-Unis, on fait la même chose en Chine, on fait la même chose en Inde. Ce qui fait que les flux interrégionaux sont assez peu importants et ce qui fait qu'on est assez peu soumis. Moi, ce qui nous concerne le plus, sachant que nous sommes l'une des plus grandes sociétés dans le digital des objets particulièrement et des infrastructures, c'est la division digitale du monde, dont on parle beaucoup moins, ce qui fait que l'environnement digital que vous avez aujourd'hui aux États-Unis ou vous avez en Chine est complètement différent. Et ça, c'est quelque chose qui, pour chacun de nos clients, qui a un petit peu de présence globale, devient un véritable problème.
C'est-à-dire que, en fait, il y a une sorte de nationalisme digital.
Qui est en fait une réflexion de la différence de nos cultures, c'est-à-dire que la façon d'approcher chacune des fonctions sur le digital est une réflexion de la façon dont vivent les peuples. Et lorsqu'on a 5000 ans d'histoire du côté chinois et des centaines d'années d'histoire du côté américain, on pense pas exactement les choses de la même façon.
Ça se traduit comment? C'est très intéressant.
Ça veut dire que dans toutes les fonctions que vous utilisez sur Internet, que ce soit votre moteur de recherche, que ce soit votre réseau social, votre réseau social professionnel, votre site de publication des vidéos, etc., votre site pour les de recherche des taxis, l'application est complètement différente. Et puis la Chine est le pays qui s'est donné comme objectif d'être le premier pays sans cash. Donc tout se fait à partir du téléphone portable, y compris les paiements.
Un mot sur l'Europe quand même, parce que c'est un des grands débats, justement, c'est créer une Europe digitale. Là aussi, je veux dire, chaque pays de l'Europe qui constitue les 27 pays, parce que enfin, les 28 ou les 27, chacun a une approche digitale et un problème culturel.
Non, je pense que quand même en Europe, globalement, l'Europe est un continent, l'Europe a une vraie consistance, c'est une grande puissance économique, et dans nos secteurs, par exemple, l'automation industrielle, la gestion de l'énergie, nous sommes leaders mondiaux, les plus grands acteurs mondiaux et les plus en pointe au niveau technologique sont européens, parce que pour une raison simple, les contraintes, celles qu'on n'a pas de ressources gazière, pétrolière, d'énergie, a fait qu'on a été les premiers à s'engager dans la préservation de l'énergie et dans la préservation des ressources. Donc en fait, aujourd'hui, les grands leaders mondiaux de l'efficacité et du développement durable, aussi par une vision inclusive, long terme de la société, fait que l'Europe est en pointe et nous, Schneider, on bénéficie d'être dans ce milieu, d'être venu de ce milieu et d'avoir finalement été précurseur dans le développement des solutions digitales pour le développement durable.
Vous allez, en conclusion, Jean-Pascal Tricoire, vous allez partir d'ici de ce forum de Davos où, quelque part, vous me disiez, c'est un peu le Davos de Schneider, parce que les messages que vous portez depuis longtemps, vous avez le sentiment que là, ils sont plus entendus, mais vous repartez dans quel état d'esprit?
Ça fait beaucoup d'années qu'à Davos ou à d'autres endroits, parce que pourquoi est-ce qu'on vient à Davos? Parce que c'est un lieu de dialogue. Alors on aime, on n'aime pas, mais c'est un endroit où vous rencontrez des gens qui viennent des ONG, des gens qui viennent des gouvernements, des gens qui viennent de toutes les géographies, et ça permet de construire des dialogues qui peuvent être des confrontations, mais des dialogues sur lesquels on avance. Et c'est pas, on va pas qu'à Davos, on va à plein d'autres meetings. Mais c'est vrai que pendant 15 ans, nous avons prêché pour un monde plus efficace, pour un monde plus durable, en utilisant les technologies comme le digital, comme les renouvelables, et on était un peu tout seul. Et là, on sent que très clairement, la vague nous accompagne. Et ça fait de. Et d'abord, il y a urgence. Il y a véritablement urgence, parce que l'urgence climatique, c'est quand même le défi de notre génération. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi les moyens de le résoudre si on le prend de façon pragmatique et on essaye d'apporter des solutions.
Merci beaucoup, en tous les cas, de ce message optimiste, malgré tout. Merci beaucoup, Jean-Pascal Tricord, d'avoir été.
Il n'y a pas d'autre solution ici que l'optimisme.
Voilà. C'est ce qu'a dit Donald Trump, hein. Il faut think positive. Voilà, ça, c'était le petit coup de
pas. Je ne lui ai pas emprunté.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Pascal Tricord, le patron de Schneider.
Merci.
Et merci à vous, Edwige. On marque une très courte pause et on vous retrouve dans un instant avec votre prochaine invitée, Brune Poirson, secrétaire d'État à l'écologie. À tout de suite.
BFM Business, l'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est une écologiste dans l'âme peut-être, Brune Poirson, bonjour.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous, secrétaire d'État donc auprès de la ministre en charge de la transition écologique et solidaire. C'est important surtout ici parce qu'on essaie de montrer que Davos, c'est pas qu'un forum de riches, mais qu'il se passe des choses. Est-ce que vous rêvez en Greta Thunberg?
Chacun son rôle. Moi, je crois que ce qu'on me demande, c'est plutôt de trouver des solutions aux problèmes que continue de soulever avec vraiment raison Greta Thunberg.
Mais en même temps, alors on oublie un instant que vous êtes ministre, pardonnez-moi, mais est-ce que vous auriez aimé être Greta Thunberg, je sais pas, il y a 10 ans?
Attendez, avec des si, on refait tout. Mais une chose est sûre,
c'est que vous êtes impressionnée par elle. Est-ce qu'elle vous impressionne?
Il y a 10 ans, j'étais déjà en train de faire ce que je pouvais à mon échelle pour trouver des solutions. Ça fait presque 15 ans maintenant que je travaille dans le domaine du développement durable, de l'innovation et de la préservation de l'environnement.
Donc, c'est quand même quelqu'un qui vous étonne. Vous êtes plutôt Greta Thunberg ou Donald Trump? C'est une question un peu rituelle que je pose.
Alors, comment vous dites?
Là, on a vraiment connu les deux extrêmes ici à Davos.
Alors, mais effectivement. Non, moi, bien évidemment, je pense que le Greta Thunberg et son rôle est absolument majeur. Nous avons besoin de voix qui arrivent à faire partager au grand public et à mobiliser aussi la jeune génération qui ne va plus voter. Et donc, nous avons besoin de les écouter par d'autres canaux, leur préoccupation, la réalité. Et il faut dire qu'elle a quand même eu le mérite, qui est de contribuer à mettre de façon massive l'environnement à l'agenda de ces grands forums internationaux, mais tout simplement comme une priorité mondiale.
Vous avez parlé du populisme vert, ce qui vous a valu quelques commentaires, parfois acerbes, on va dire ça comme ça, Brune Poirson. Est-ce que pour vous, Donald Trump, justement le président américain, on est dans... Où est-ce qu'on est avec lui?
Là, je dirais qu'on est plutôt dans le climato-scepticisme, c'est-à-dire, vous savez, une caractéristique des populistes, qu'ils soient verts ou pas, c'est le fait qu'ils mentent et ils exploitent la peur de nos citoyens. Et dans le populisme vert, il y a une vraie volonté d'exploiter cette peur-là et de dire non mais rassurez-vous, tout ça très facile. Et donc on sort des arguments et on dit que tout est faisable du jour au lendemain. Regardez par exemple Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, j'allais y venir, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui.
Le matin, je l'accuse d'être un populiste vert et encore aujourd'hui. Et l'après-midi même, il me le prouve puisque à la télévision, à l'Assemblée nationale, il dit ah mais moi si vous me donnez les clés du camion, en moins d'un an, on sort du plastique. Le plastique, il y en a absolument partout. De votre tube de dentifrice, au shampoing, à votre bidon de Javel, il y en a partout. En un an, ce n'est tout simplement pas faisable. En revanche, qu'on le fasse le plus rapidement possible, oui, bien sûr. Mais exploiter la peur pour faire croire que les solutions sont faciles, ça, je crois que c'est mortifère pour l'écologie et c'est mortifère aussi, tout simplement, pour notre démocratie. Et on a les deux extrêmes, Donald Trump ou Jean-Luc Mélenchon. Même si je ne les mets pas à la même hauteur, l'un est président, l'autre aspire à l'être peut-être un jour.
Est-ce que pour vous, le 2040, parce que c'est là aussi, c'est l'échéance que vous avez fixée pour le plastique. Est-ce que
jetable,
bien sûr. Est-ce que c'est pas trop loin? Parce que tout le monde a dit, mais c'est beaucoup trop loin. Il faut être beaucoup plus volontariste, aller beaucoup plus vite.
En fait, ça dépend de quel plastique on parle. Je crois que tout le monde n'a pas réalisé à quel point le plastique est absolument omniprésent. Il est, c'est la base de toute la chaîne alimentaire. Tout, absolument tout est emballé dans du plastique qui est jetable. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que dans les 1 an, 2 ans, 3 ans à venir, nous allons éliminer absolument toutes les sortes, toute une série de plastiques jetables, que ce soit les boîtes en polystyrène expansé dans les kebabs ou les magasins de restauration rapide. Et nous allons aussi, dans les fast-foods, sur la restauration sur place, supprimer les emballages ou les jouets en plastique. Bref, je ne vous les cite pas tous, cher Edwige, il y en a environ 30. Et ensuite, si nous voulons aller plus loin, je crois qu'il faut sortir de ce système de consommation tel qu'il est organisé aujourd'hui, qui repose sur le tout jetable, pour aller vers le tout réutilisable. Et ça suppose non seulement de trouver des alternatives au plastique à grande échelle pour que ça soit abordable pour chacun, que chacun puisse se l'offrir et qu'on se retrouve pas dans une situation comme par exemple la taxe carbone. Nous avons mis une politique environnementale ambitieuse mais sans donner de solutions et d'alternatives à côté et les gens nous ont dit à raison, nous n'en voulons pas. Donc sur le plastique, nous devons passer à l'échelle sur des solutions et nous devons aussi changer nos modes de consommation. C'est pour ça qu'il faut promouvoir, par exemple, des dispositifs comme la consigne, comme le développement massif.
Mais la consigne, on voit bien, c'est très difficile, hein, très difficile
mais
à mettre en place.
Eh bien, vous voyez que si
la réalité se heurte.
Oui. Si vous voyez quelque chose, quelque part d'aussi intuitif que la consigne qui est demandée par les Français, nous avons eu autant de difficultés à la mettre en place, imaginez encore les montagnes qui nous restent à gravir. Or, il faut qu'on le fasse le plus rapidement possible. Mais dire qu'on peut monter en haut du Mont Blanc en 10 minutes, ça, c'est un pur mensonge. Ça nourrit le cynisme et à la fin, vous vous retrouvez au gouvernement avec des gens qui ne vont en réalité rien faire pour la transition écologique.
Est-ce qu'ici vous avez le sentiment qu'il y a un tipping point, un point de basculement, pour reprendre l'expression de chef d'entreprise Pascal Tricoire, qui est le patron de Schneider, donc où il dit le digital, l'urgence climatique, on est très très conscient de ça. Et ici, j'ai le sentiment qu'il y a eu un point de basculement dans les mentalités des dirigeants de ce monde qui sont ici à Davos.
Je sais pas si on est déjà dans le point de bascule. J'aimerais bien qu'on le soit et on aurait dû l'être bien avant. En tout cas, une chose est certaine. Moi, je le vois puisque j'étais là l'an dernier. C'est qu'il y a vraiment une différence dans l'approche. Aujourd'hui, je sens la même angoisse que celle que j'avais pu avoir moi et que énormément de jeunes ont aussi. Cette angoisse-là, aujourd'hui, je la sens partagée par des dirigeants économiques, des dirigeants politiques. Maintenant, on n'a pas toutes les solutions derrière. Et ça accroît l'angoisse. Et certains en jouent. Je parlais des populistes verts. Moi, je vois un vrai changement. Et je pense qu'on peut l'imputer en partie à la mobilisation des jeunes et c'est pour ça que j'en suis particulièrement reconnaissante. Je vois ce changement-là. Vous dire qu'il est encore assez rapide, je ne crois pas. J'entendais encore aujourd'hui un investisseur privé qui disait « Moi, j'investirai dans une entreprise qui me démontre qu'on peut gagner de l'argent avec le changement climatique. » Moi, je dis « Oui, c'est vrai, mais il faut que chacun prenne plus de risques et qu'on aille encore plus loin. » Donc, il y a encore du chemin à faire.
Oui, à condition qu'on puisse mesurer ce chemin. C'est ce que disaient aussi plusieurs chefs d'entreprise et investisseurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on... si vous faites un effort pour transformer votre entreprise, il faut que ça puisse se mesurer. Et à mon avis, c'est là où, pour l'instant, il y a du retard. Et pourtant, c'est là où on a un vrai point de bascule. En tous les cas, c'est le sentiment que j'ai eu.
Oui, vous avez absolument raison. Cette question de la mesure est centrale. C'est en partie pour ça que dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été votée il y a 48 heures,
absolument,
il y a énormément de choses sur la transparence, l'information aux consommateurs, et mais aussi des tas d'indices, comme par exemple un indice de réparabilité pour savoir si les produits sont réparables ou pas. Ça, c'est pour le consommateur. Ouais. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise, elle aura dû travailler et rendre publique toute une série d'informations qu'elle ne rendait pas nécessairement publique avant, qui vont pouvoir être disponibles pour les investisseurs, mais aussi pour les consommateurs, et aider à faire des décisions d'investissement ou de consommation qui sont plus favorables à l'environnement. Il faut développer ça de façon massive. Ça tombe bien, c'est dans la loi en France.
L'économie circulaire, ça peut, je veux dire, si on la mesure, comment vous pourrez mesurer son succès ?
Le jour où on atteindra la neutralité carbone. Et c'est quoi la neutralité carbone ? C'est quand on n'émet pas plus de CO2 que ce que la nature est capable d'absorber. Donc ça veut dire le jour où on aura arrêté d'artificialiser les sols. Ça tombe bien, cette année, il y a la COP15. Nous accueillons le Congrès mondial de la nature à Marseille. C'est une des grandes priorités. Et c'est aussi pour ça que je travaillais, par exemple, avec le secteur du textile, avec le secteur du plastique.
On va rappeler que c'est l'industrie, la deuxième industrie la plus polluante, l'industrie du textile, tout confondu.
Absolument. C'est pour ça qu'en France, par exemple, on a toute une série de mesures comme on a imposé d'ici 2024 le fait qu'il faut qu'il y ait des filtres sur les machines à laver. Parce que je ne sais pas si vous savez, Edwige, mais quand vous lavez vos vêtements qui contiennent, par exemple, des fibres synthétiques, tout ça, ça fait des microparticules qui partent dans l'environnement. Vous voyez, ce sont aussi des choses comme ça qui sont complexes parfois technologiquement, parfois beaucoup plus simples, mais qui nécessitent un peu d'argent et qu'il faut pousser. Et en France, on est pionnier là-dessus, je le sais, parce qu'on nous le dit. Et je suis là pour expliquer ce qu'on fait en France et pour encourager d'autres pays à nous suivre.
Peut-être dernière leçon que vous avez retenue d'ici, Brune Poisson.
C'est que on voit peut-être une petite touche d'espoir. C'est que avant
une petite touche, moi c'est pas très optimiste.
Avant le réchauffement climatique, c'était traité dans des salles bien à part à Davos. Enfin, j'ai pas une grande expérience, j'y suis allée qu'une fois l'an dernier.
Mais
aujourd'hui,
je vous le confirme.
Je vois que c'est absolument central dans les discussions. Peut-être une chose. Il est très important d'aller vite. Il faut qu'on aille le plus vite possible, mais aller vite ne veut pas dire aller dans la précipitation, faire des changements qui soient brutaux, qui font que les gens n'ont pas d'alternative et que du coup, ils se rebellent quelque part contre les politiques publiques de transition écologique. Donc, faisons les choses, remontons-nous les mains, mais c'est en travaillant les uns avec les autres que nous allons y arriver.
Merci beaucoup. Brune Poisson était notre invitée, donc secrétaire d'État auprès du ministère, de la ministre en charge de la transition écologique et solidaire, encore une fois. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Allez, on marque une dernière pause et on vous retrouve, Edwige, avec votre dernière invitée, Philippe Donnet, le patron de Generali. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Et on va partir maintenant en Italie, si j'ose dire, puisque mon invité, c'est Philippe Donnet. Il est administrateur délégué de Generali. Philippe Donnet, bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre à nos questions. Première fois qu'on reçoit le patron de Generali. Generali, c'est le premier assureur en Europe, très présent en Allemagne, en France, bien sûr.
Et en Italie,
bon, évidemment. Et quatrième assureur mondial. Une question quand même, Philippe Donnet. Est-ce que la politique de Toba, aujourd'hui c'est la réunion donc de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, est-ce que pour vous c'est un énorme problème? Est-ce que les Generali est mis en danger à cause de cette politique de Toba?
Non, absolument pas, parce que les Generali déjà depuis 6 ans se sont préparés à vivre avec un environnement de Toba pendant très longtemps. Il se trouve que j'ai vécu au Japon, que j'ai déjà l'expérience japonaise de ce scénario et que ça nous est très utile chez Generali. Donc on a fait ce qu'il fallait pour changer les produits, pour réformer notre portefeuille d'assurance et je dirais pour nous immuniser contre ces taux d'intérêt bas ou négatifs. Donc je dirais que Generali n'est absolument pas en danger. La plupart des grands assureurs se sont également préparés. Donc le secteur de l'assurance vie en Europe est capable de résister à ce scénario. Cela étant, moi, je ne suis pas de ceux qui critiquent ce qui s'est passé, la politique monétaire telle qu'elle a été menée par Mario Draghi ces dernières années. Je pense que ça a eu des effets positifs. Je pense que ça a répondu positivement à des urgences. Mon point, c'est de dire que ce médicament a été efficace, mais si on continue à prendre le même médicament, il va commencer à ne plus être efficace, d'une part, et il va finir par avoir des effets négatifs. Donc les taux bas, c'est quelque chose qui ne doit pas durer encore trop longtemps parce que les effets négatifs vont finir par se faire sentir. Et il est clair qu'on attend beaucoup de la présentation de Christine Lagarde aujourd'hui parce que c'est très important pour nous de savoir quelle inflexion elle va donner à la politique monétaire. Si je peux prendre un exemple d'effets négatifs des taux bas, c'est sur finalement les retraités. Les retraités ont un patrimoine et si ce patrimoine n'est plus suffisamment rémunéré, au lieu d'investir, au lieu de consommer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont épargner, uniquement épargner, et ça n'est pas bon pour l'économie à long terme.
Oui, c'est ce qui se passe, hein. Du reste, vous avez raison de le souligner. Vous avez dit que c'est un bon médicament notamment pour essayer de booster l'activité au sein de l'eurozone et puis aussi de l'Union européenne. L'état de santé, le bilan de santé de l'Italie, c'est quoi sur le plan économique, bien sûr. Sur le plan politique, on voit que c'est assez compliqué, donc on ne va pas rentrer dans les méandres de la politique italienne. Mais sur le plan économique, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il y a toujours un peu cette épée de Damoclès, oui, autour de l'état de santé des banques italiennes.
Alors écoutez, d'abord vous avez raison, il vaut mieux parler de l'économie italienne que de la politique italienne, c'est beaucoup plus simple. D'abord je crois que c'est important de comprendre qu'il y a, je dirais malheureusement, deux Italies. Il y a l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Et la croissance italienne, qui est en moyenne une des plus faibles d'Europe, qui est en tout cas plus basse que la croissance française ou que la croissance allemande, est une moyenne de l'Italie du Sud et de l'Italie du Nord. La réalité quand même, c'est que l'Italie du Nord a une croissance forte, avec un tissu de PME qui est d'une qualité exceptionnelle, des PME qui sont très exportatrices,
très dynamiques. Mais qui souffrent quand même un peu en ce moment.
Aujourd'hui, elles sont solides. D'accord. Elles sont solides. Bon, quand ton système bancaire, il a connu des difficultés il y a quelques années, mais je dirais que beaucoup d'efforts ont été entrepris pour consolider la situation des banques. Les grandes banques sont solides, Intesa, Unicredit et d'autres. Il y a encore quelques situations de petites banques régionales qu'il va falloir résoudre. Mais vous savez, il y a un sujet d'échelle, de taille, et je pense qu'on ira en Italie vers des agrégations et des constitutions de pôles bancaires plus importants. Donc je suis pas inquiet sur la situation des banques italiennes.
Si je vous pose la question, c'est au niveau macroéconomique italien, c'est que Generali, c'est vraiment au cœur de l'activité de l'économie italienne. Est-ce que l'Italie va s'en sortir ? C'est un peu la question, on dit beaucoup que c'est aujourd'hui le maillon faible de la zone euro. Est-ce que vous trouvez que c'est un procès injuste ou que c'est vrai, mais qu'il y a quand même une lueur d'espoir à la sortie ?
Non, non, moi je n'ai absolument pas d'inquiétude sur le sort de l'Italie. L'Italie est déjà en train de faire des progrès considérables.
Mais la dette italienne, quand même, l'endettement italien qui reste.
Alors, l'endettement italien reste important, mais le déficit italien a été considérablement réduit. Si je fais une comparaison avec d'autres pays qui ont effectivement un endettement plus faible, mais un déficit plus important. Il faut quand même savoir que l'Italie a fait des réformes courageuses il y a assez longtemps déjà. Je prends un exemple qui est celui de la retraite. L'Italie a réformé, il y a quelques années déjà, de manière extrêmement courageuse, en portant l'âge de la retraite à 67 ans, l'Italie a fait la réforme de son système de retraite. C'est un des exemples du courage de l'Italie. Maintenant, il y a encore...
Vous voulez dire que le gouvernement français n'a pas eu le courage de mettre son âge pivot, non pas à 64, mais à 67 ans ?
C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je pense qu'au contraire, le gouvernement français a attaqué de manière courageuse et décider une réforme qui était nécessaire, avec, je dirais, les malaises que ça a pu créer, comme les mêmes malaises ont eu lieu en Italie il y a quelques années. Ça a été fait plus tôt en Italie, c'est bien de le faire aujourd'hui en France. C'est un peu compréhensible qu'il y ait de la contestation et des interrogations sur le sujet. Mais ce sera fait en France avec le même courage que ça a été fait en Italie. Donc l'Italie, oui, va s'en sortir, mais je ne vois pas l'Italie comme le maillon faible de l'Europe. Ça n'est pas le cas. Si on peut parler d'un maillon faible de l'Europe, je dirais que le vrai maillon faible de l'Europe, c'est son manque d'unité. C'est ça le vrai sujet en Europe. C'est pas le problème de l'Europe, c'est pas l'Italie. Au contraire, l'Italie de plus en plus apportera sa contribution positive à la construction politique et économique de l'Europe. Mais je crois que le thème majeur, c'est l'unité de l'Europe. Et c'est de ça dont on a besoin.
Est-ce que à propos d'Europe, est-ce que pour vous, la consolidation, vous l'avez dit, dans les banques, on l'attend, dans les assurances, on l'attend aussi. Est-ce que Generali va participer à cette consolidation ? Vous avez, je crois, une acquisition au Portugal. On vous avait vu, mais je crois que le dossier est clos, éventuellement racheter un assureur, enfin une partie de l'activité d'un assureur américain. Est-ce que vous êtes à l'affût d'autres acquisitions ?
Alors, oui, on est, en ce qui concerne Generali, on est aujourd'hui en recherche de croissance externe, d'opérations de croissance externe qui nous permettent d'accélérer l'exécution de notre stratégie. On a déclaré qu'on avait 4 milliards à disposition pour financer ces opérations de croissance externe, mais je dirais qu'on ne les fera pas dans n'importe quelle condition et à n'importe quel prix. On reste très discipliné sur ces opportunités-là. Je crois plus à des mouvements d'agrégation qu'à des mouvements de consolidation.
C'est quoi la différence ?
La différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez déjà de très gros acteurs en Europe et que ça n'est pas nécessaire de devenir beaucoup plus gros. Ce qui est important, c'est plus la qualité que la quantité, je dirais. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Europe, il y a 4000 compagnies d'assurance. Donc la plupart sont petites ou moyennes. Okay. Je crois que le contexte devient, pour certaines, un peu trop difficile et qu'il y a un peu trop de pression sur certaines d'entre elles. Et je pense qu'une société, un groupe comme Generali, a la capacité d'agréger des petites et moyennes compagnies d'assurance en Europe. C'est ce qu'on a commencé à faire avec notre acquisition au Portugal et j'espère qu'il y en aura d'autres.
Et en France, vous voyez des cibles pour vous ? Ou là, c'est déjà fait, c'est dominé par des grands assureurs, le marché, comme en Allemagne, vous me direz peut-être, non ?
Oui, il y a une similitude entre le marché allemand et le marché français. Ce sont des marchés où les mutuelles ont pris une place extrêmement importante. Et en France, on a non seulement les mutuelles, et on a également la banque assurance. Donc, à la fois la France et l'Allemagne sont des marchés extrêmement, extrêmement compétitifs. C'est pas forcément facile d'y trouver des opportunités de croissance externe, mais ça n'est pas grave, parce que quand on n'a pas d'opportunités de croissance externe, il reste la croissance organique, et nous, on est très focalisés sur la croissance organique, qui est importante chez nous.
Dernière question, Philippe Denay, c'est compliqué d'être un Français à la tête d'un des plus grands groupes italiens. On voit qu'il y a des tensions actuellement entre la France et l'Italie. On le voit, il y a des rapprochements aussi. En tous les cas, il y a beaucoup de mouvements. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'on vous reproche de temps en temps votre nationalité ?
Écoutez, c'est pas simple d'être à la tête d'un groupe international d'assurance dans un contexte financier qui est quand même assez, assez complexe. Je sais pas si le fait d'être français en Italie apporte de la complexité. Moi, je crois pas. Je crois que c'est bien d'avoir une expérience multiculturelle, internationale. D'ailleurs, je suis à la tête d'une équipe très multiculturelle, très internationale. Et puis, pour un Français, avoir le bonheur de vivre en Italie, notamment à Venise, c'est quelque chose d'assez unique.
Merci. Voilà, c'était Philippe Denay, administrateur délégué de Generali. C'est la fin de l'heure H. On se retrouve, bien sûr, toujours en direct de Davos, ce soir à 18h.